Chapitre 8. L'expédition Paul-Émile. Henri, transporté de joie, se hâta d'aller rejoindre Diane et Remy. « Tenez-vous prêts dans un quart d'heure, leur dit-il. Nous partons. Vous trouverez deux chevaux tout scellés à la porte du petit escalier de bois qui aboutit à ce corridor. Mêlez-vous à notre suite et ne soufflez mot. » Puis, apparaissant au balcon de châtaignier qui faisait le tour de la maison, « Trompette des gendarmes » cria-t-il, « sonnez le boute-selle !» L'appel retentit aussitôt dans le bourg, et l'enseigne et ses hommes vinrent se ranger devant la maison. Leurs gens venaient derrière eux avec quelques mulets et deux chariots. Remy et sa compagne, selon le conseil donné, se dissimulaient au milieu d'eux. « Gendarme, dit Henri, mon frère l'amiral m'a donné, momentanément, le commandement de votre compagnie et m'a chargé d'aller à la découverte. 100 de vous devront m'accompagner. La mission est dangereuse, mais c'est pour le salut de tous que vous allez marcher en avant. Quels sont les hommes de bonne volonté ?» Les 300 hommes se présentèrent. « Messieurs, dit Henri, je vous remercie tous. C'est avec raison qu'on a dit que vous aviez été l'exemple de l'armée. » Mais je ne puis prendre que 100 hommes parmi vous. Je ne veux point faire de choix, le hasard décidera. Monsieur, continua Henri, en s'adressant à l'enseigne, faites tirer au sort, je vous prie. Pendant qu'on procédait à cette opération, Joyeuse donnait ses dernières instructions à son frère. Écoute bien, Henri, disait l'amiral. Les campagnes se dessèchent. Il doit exister, à ce qu'assurent les gens du pays, une communication entre Contique et Rupelmonde. Vous marchez entre une rivière et un fleuve, le Rupel et l'Escaut. Vous trouverez, avant Rupelmonde, des bateaux ramenés d'Anvers. Le Rupel n'est point indispensable à passer. J'espère que vous n'aurez pas besoin, d'ailleurs, d'aller jusqu'à Rupelmonde pour trouver des magasins de vivres ou des moulins. Henri s'apprêtait à partir sur ces paroles. « Attends donc, lui dit Joyeuse, tu oublies le principal. » Mes hommes ont pris 3 paysans, je t'en donne un pour servir de guide. Pas de fausse pitié, à la première trahison, un coup de pistolet ou de poignard. Ce dernier point réglé, il embrassa tendrement son frère et donna l'ordre du départ. Les 100 hommes, tirés au sort par l'enseigne, du bouchage en tête, se mirent en route à l'instant même. Henri plaça le guide entre 2 gendarmes, tenant constamment le pistolet au poing. Remy et sa compagne étaient mêlés aux gens de la suite. Henri n'avait fait aucune recommandation à leur égard, pensant que la curiosité était déjà bien assez excitée à leur endroit, sans l'augmenter encore par des précautions plus dangereuses que salutaires. Lui-même, sans avoir fatigué ou importuné ses hôtes par un seul regard, après être sorti du bourg, revint prendre sa place au flanc de la compagnie. Cette marche de la troupe était lente. Les chemins, parfois, manquaient tout à coup sous les pieds des chevaux, et le détachement tout entier se trouvait embourbé. Tant que l'on n'eut point trouvé la chaussée que l'on cherchait, on dut se résigner à marcher comme avec des entraves. Parfois, des spectres, fuyant au bruit des chevaux, sillonnaient la plaine. C'étaient des paysans un peu trop prompts à revenir dans leurs terres et qui redoutaient de tomber aux mains des ennemis qu'ils avaient voulu anéantir. Parfois aussi, ce n'étaient que de malheureux Français, à moitié morts de froid et de faim, incapables de lutter contre des gens armés, et qui, dans l'incertitude où ils étaient de tomber sur des amis ou des ennemis, préféraient attendre le jour pour reprendre leur pénible route. On fit 2 lieues en 3 heures. Ces 2 lieues avaient conduit l'aventureuse patrouille sur les bords du Rupel que bordait une chaussée de pierre. Mais alors les dangers succédèrent aux difficultés. 2 ou 3 chevaux perdirent pied dans les interstices de ces pierres ou, glissant sur les pierres fangeuses, roulèrent avec leurs cavaliers dans l'eau encore rapide de la rivière. Plus d'une fois aussi, de quelques bateaux amarrés à l'autre bord partirent des coups de feu qui blessèrent 2 valets d'armée et 1 gendarme. Un des 2 valets avait été blessé aux côtés de Diane. Elle avait manifesté des regrets pour cet homme, mais aucune crainte pour elle. Henri, dans ces différentes circonstances, se montra pour ses hommes un digne capitaine et un véritable ami. Il marchait le premier, forçant toute la troupe à suivre sa trace et se fiant moins encore à sa propre sagacité qu'à l'instinct du cheval que lui avait donné son frère. si bien que dans cette façon, il conduisait tout le monde au salut en risquant seul la mort. À 3 lieues de Rupelmonde, les gendarmes rencontrèrent une demi-douzaine de soldats français accroupis devant un feu de tourbe. Les malheureux faisaient cuire un quartier de chair de cheval, seule nourriture qu'ils eussent rencontrée depuis 2 jours. L'approche des gendarmes causa un grand trouble parmi les convives de ce triste festin. 2 ou 3 se levèrent pour fuir, mais l'un d'eux resta assis et les retint en disant « Eh bien, s'ils sont ennemis, ils nous tueront, et du moins la chose sera finie tout de suite. « France, France !» cria Henri, qui avait entendu ces paroles. « Venez à nous, pauvres gens !» Les malheureux, en reconnaissant des compatriotes, accoururent à eux. On leur donna des manteaux, un coup de genièvre, on y ajouta la permission de monter en croupe derrière les valets. Ils suivirent ainsi le détachement. Une demi-lieue plus loin, on trouva 4 chevaux légers avec un cheval pour 4. Ils furent recueillis également. Enfin, on arriva sur les bords de l'Escaut. La nuit était profonde. Les gendarmes trouvèrent là 2 hommes qui tâchaient, en mauvais flamand, d'obtenir d'un batelier le passage sur l'autre rive. Celui-ci refusait avec des menaces. L'enseigne parlait le hollandais, il s'avança doucement en tête de la colonne, et tandis que celle-ci faisait halte, il entendit ces mots. « Vous êtes des Français, vous devez mourir ici, vous ne passerez pas !» L'un des 2 hommes lui appuya un poignard sur la gorge, et, sans se donner la peine d'essayer de lui parler sa langue, il lui dit, en excellent français, « C'est toi qui mourras ici, tout flamand que tu es, si tu ne nous passes pas à l'instant même !»« Tenez ferme, monsieur, tenez ferme !» cria l'enseigne. « Dans 5 minutes, nous sommes à vous !» Mais pendant le mouvement que les 2 Français firent en entendant ces paroles, le batelier détacha le nœud qui retenait sa bargue au rivage et s'éloigna rapidement en les laissant sur le bord. Mais un des gendarmes, comprenant de quelle utilité pouvait être le bateau, entra dans le fleuve avec son cheval et abattit le batelier d'un coup de pistolet. Le bateau sans guide tourna sur lui-même, mais comme il n'avait pas encore atteint le milieu du fleuve, le remous le repoussa vers la rive. Les 2 hommes s'en emparèrent aussitôt qu'il toucha le bord et s'y logèrent les premiers. Cet empressement à s'isoler étonna l'enseigne. « Et, messieurs, demanda-t-il, qui êtes-vous, s'il vous plaît ?»« Messieurs, nous sommes officiers au régiment de la marine, et vous, gendarmes d'Aunis, à ce qu'il paraît. »« Oui, messieurs, et bien heureux de pouvoir vous être utile. N'allez-vous point nous accompagner ?»« Volontiers, messieurs. » « Montez sur les chariots, alors, si vous êtes trop fatigués pour nous suivre à pied. »« Puis-je vous demander où vous allez ?» fit celui des 2 officiers de marine qui n'avaient point encore parlé. « Monsieur, nos ordres sont de pousser jusqu'à Rupelmonde. »« Prenez garde, » reprit le même interlocuteur. « Nous n'avons pas traversé le fleuve plus tôt parce que ce matin, un détachement d'Espagnols a passé, venant d'Anvers. » Au coucher du soleil, nous avons cru pouvoir nous risquer. 2 hommes n'inspirent pas l'inquiétude, mais vous, toute une troupe. C'est vrai, dit l'enseigne, je vais appeler notre chef. Il appela Henri, qui s'approcha en demandant ce qu'il y avait. Il y a, répondit l'enseigne, que ces messieurs ont rencontré ce matin un détachement d'Espagnols, qui suivait le même chemin que nous. Combien étaient-ils ? Demanda Henri. 50aine d'hommes. Eh bien, c'est cela qui vous arrête. Non, monsieur le comte, mais cependant, je crois qu'il serait prudent de nous assurer du bateau, à tout hasard. 20 hommes peuvent y tenir, et s'il y avait urgence de traverser le fleuve en 5 voyages et en tirant nos chevaux par la bride, l'opération serait terminée. C'est bien, dit Henri, qu'on garde le bateau. Il doit y avoir des maisons à l'embranchement du Rupel et de l'Escaut. Il y a un village, dit une voix. « Allons-y, c'est une bonne position que l'angle formé par la jonction de 2 rivières. Gendarmes, en marche! Que 2 hommes descendent le fleuve avec le bateau, tandis que nous le côtoierons. »« Nous allons diriger le bateau, » dit l'un des 2 officiers, « si vous le voulez bien. »« Soit, messieurs, » dit Henri, « mais ne nous perdez point de vue et venez nous rejoindre aussitôt que nous serons installés dans le village. »« Mais si nous abandonnons le bateau et qu'on le reprenne, » Vous trouverez à 100 pas du village un poste de 10 hommes à qui vous le remettrez. C'est bien, dit l'officier de marine, et d'un vigoureux coup d'aviron, il s'éloigna du rivage. C'est singulier, dit Henri en se remettant en marche, voilà une voie que je connais. 1 heure après, il trouva le village gardé par le détachement d'Espagnols dont avait parlé l'officier. Surpris, au moment où ils s'y attendaient le moins, ils firent à peine résistance. Henri fit désarmer les prisonniers, les enferma dans la maison la plus forte du village et mit un poste de 10 hommes pour les garder. Un autre poste de 10 hommes fut envoyé pour garder le bateau. 10 autres hommes furent dispersés en sentinelles sur divers points avec promesse d'être relevés au bout d'une heure. Henri décida ensuite que l'on souperait 20 par 20 dans la maison en face de celle où étaient enfermés les prisonniers espagnols. Le souper des 50 ou 60 premiers était prêt, c'était celui du poste qu'on venait d'enlever. Henri choisit au premier étage une chambre pour Diane et pour Remy, qu'il ne voulait point faire souper avec tout le monde. Il fit placer à table l'enseigne avec 17 hommes, en le chargeant d'inviter à souper avec lui les 2 officiers de marine, gardiens du bateau. Et puis il s'en alla, avant de se mettre à table lui-même, visiter ses gens dans leurs diverses positions. Au bout d'une demi-heure, Henri rentra. Cette demi-heure lui avait suffi pour assurer le logement et la nourriture de tous ses gens et pour donner les ordres nécessaires en cas de surprise des Hollandais. Les officiers, malgré son invitation de ne point s'inquiéter de lui, l'avaient attendu pour commencer leur repas. Seulement, ils s'étaient mis à table. Quelques-uns dormaient de fatigue sur leurs chaises. L'entrée du comte réveilla les dormeurs et fit lever les éveillés. Henri jeta un coup d'œil sur la salle. Des lampes de cuivre suspendues au plafond éclairaient d'une lueur fumeuse et presque compacte. La table, couverte de pain de froment et de viande de porc, avec un pot de bière fraîche pour chaque homme, eut un aspect appétissant, même pour des hommes qui, depuis 24 heures, n'eussent pas manqué de tout. On indiqua à Henri la place d'honneur. Il s'assit. « Mangez, messieurs, dit-il. » Aussitôt cette permission donnée, le bruit des couteaux et des fourchettes sur les assiettes de faïence prouva à Henri qu'elle était attendue avec une certaine impatience et accueillie avec une suprême satisfaction. « À propos, demanda Henri à l'enseigne, a-t-on retrouvé nos 2 officiers de marine ?»« Oui, monsieur. Où sont-ils ?»« Là, voyez, au bout de la table. » Non seulement ils étaient assis au bout de la table, mais encore à l'endroit le plus obscur de la chambre. « Messieurs, dit Henri, vous êtes mal placés, et vous ne mangez point, ce me semble. »« Merci, monsieur le comte, répondit l'un d'eux. Nous sommes très fatigués, et nous avions en vérité plus besoin de sommeil que de nourriture. Nous avons déjà dit cela à messieurs vos officiers, mais ils ont insisté, disant que votre ordre était que nous soupassions avec vous. » « Ce nous est un grand honneur et nous sommes bien reconnaissants, mais néanmoins, si au lieu de nous garder plus longtemps, vous aviez la bonté de nous faire donner une chambre. » Henri avait écouté avec la plus grande attention, mais il était évident que c'était bien plutôt la voix qu'il écoutait que la parole. « Et c'est aussi l'avis de votre compagnon, dit Henri, lorsque l'officier de marine eut cessé de parler. » Et il regardait ce compagnon qui tenait son chapeau rabattu sur ses yeux et qui s'obstinait à ne pas souffler mot avec une attention si profonde que plusieurs des convives commencèrent à le regarder aussi. Celui-ci, forcé de répondre à la question du comte, articula d'une façon presque inintelligible ces 2 mots « Oui, comte ». À ces 2 mots, le jeune homme tressaillit. Alors se levant, il marcha droit, au bas bout de la table, tandis que les assistants suivaient, avec une attention singulière, les mouvements de Henri et la manifestation bien visible de son étonnement. Henri s'arrêta près des 2 officiers. « Monsieur, dit-il à celui qui avait parlé le premier, faites-moi une grâce. »« Laquelle, monsieur le comte ? » ?»« Assurez-moi que vous n'êtes pas le frère de monsieur Aurilly, ou peut-être monsieur Aurilly lui-même. » « Aurilly !» s'exclamèrent tous les assistants. « Et que votre compagnon, continua Henri, veuille bien relever un peu le chapeau qui lui couvre le visage, sans quoi je l'appellerai Monseigneur, et je m'inclinerai devant lui. » Et en même temps, son chapeau à la main, Henri s'inclina respectueusement devant l'inconnu. Celui-ci leva la tête. « Monseigneur le duc d'Anjou !» s'écrièrent les officiers. « Le duc vivant !» « Ma foi, messieurs, dit l'officier, puisque vous voulez bien reconnaître votre prince vaincu et fugitif, je ne résisterai pas plus longtemps à cette manifestation dont je vous suis reconnaissant. Vous ne vous trompiez pas, messieurs, je suis bien le duc d'Anjou. »« Vive Monseigneur! S'écrièrent les officiers. Toutes ces exclamations, bien que sincères, effarouchèrent le prince. « Oh, silence, silence, messieurs, dit-il, ne soyez pas plus contents que moi, je vous prie, du bonheur qui m'arrive. Je suis enchanté de n'être pas mort, je vous prie de le croire, et cependant, si vous ne m'eussiez point reconnu, je ne me fusse pas le premier vanté d'être vivant. » « Quoi, monseigneur, dit Henri, vous m'aviez reconnu, vous vous retrouvez au milieu d'une troupe de Français, vous nous voyez désespérés de votre perte, et vous nous laissiez dans cette douleur de vous avoir perdu. Monsieur, répondit le prince, outre une foule de raisons qui me faisaient désirer de garder l'incognito, j'avoue que, puisque l'on me croyait mort, je n'eusse point été fâché de cette occasion, qui ne se présentera probablement pas de mon vivant, de savoir un peu quelle oraison funèbre on prononcera sur ma tombe. Monseigneur, monseigneur, non, vraiment, dit le duc, je suis un homme comme Alexandre de Macédoine, moi. Je fais la guerre avec art et j'y mets de l'amour-propre, comme tous les artistes. Eh bien, sans vanité, j'ai, je crois, fait une faute. Monseigneur, dit Henri, en baissant les yeux, ne dites point de pareilles choses, je vous prie. Pourquoi pas, il n'y a que le pape qui soit infaillible. Et encore, depuis Boniface VIII, cette infaillibilité est-elle fort contestée? Voyez à quelle chose vous nous exposiez, monseigneur, si quelqu'un de nous se fût permis de donner son avis sur cette expédition et que cet avis eût été un blâme. Eh bien, pourquoi pas? Croyez-vous que je ne me sois point déjà fort blâmé moi-même, non pas d'avoir livré bataille, mais de l'avoir perdue? Monseigneur, cette bonté nous effraie, et que votre Altesse me permette de lui dire, cette gaieté n'est point naturelle, que votre Altesse ait la bonté de nous rassurer en nous disant qu'elle ne souffre point. Un nuage terrible passa sur le front du prince et couvrit ce front, déjà si fatal, d'un crêpe sinistre. Non pas, dit-il, non pas, je ne fus jamais mieux portant, Dieu merci, qu'à cette heure, et je me sens à merveille au milieu de vous. Les officiers s'inclinèrent. « Combien d'hommes sous vos ordres du bouchage ?» demanda le duc. « 150, monseigneur. »« Ah, 150 sur 12 000, c'est la proportion du désastre de Cannes. Messieurs, on enverra un boisseau de vos bagues à Anvers, mais je doute que les beautés flamandes puissent s'en servir, à moins de se faire effiler les doigts avec les couteaux de leur mari. Coupez bien ces couteaux. » Monseigneur, reprit Joyeuse, si notre bataille est une bataille de Cannes, nous sommes plus heureux que les Romains, car nous avons conservé notre Paul Émile. Sur mon âme, messieurs, reprit le duc, le Paul Émile d'Anvers, c'est Joyeuse, et sans doute, pour pousser la ressemblance jusqu'au bout avec son héroïque modèle, ton frère est mort, n'est-ce pas, du bouchage? Henri se sentit le cœur déchiré par cette froide question. « Non, monseigneur, répondit-il, il vit. »« Ah, tant mieux, dit le duc avec son sourire glacé. Quoi, notre brave Joyeuse a survécu? Où est-il que je l'embrasse? »« Il n'est point ici, monseigneur. »« Ah oui, blessé? » ?»« Non, monseigneur, sain et sauf. » »« Mais fugitif comme moi, errant, affamé, honteux, et pauvre guerrier, hélas, le proverbe a bien raison. » Pour la gloire l'épée, après l'épée le sang, après le sang les larmes. Monseigneur, j'ignorais le proverbe, et je suis heureux, malgré le proverbe, d'apprendre à votre Altesse que mon frère a eu le bonheur de sauver 3 000 hommes, avec lesquels il occupe un gros bourg à 7 lieues d'ici, et tel que me voit son Altesse, je marche comme éclaireur de son armée. Le duc pâlit. 3 000 hommes, dit-il, et c'est Joyeuse qui a sauvé ces 3 000 hommes. Ah, sais-tu que c'est un Xénophon, ton frère? Ah, il est pardieu fort heureux que mon frère à moi m'ait envoyé le tien, sans quoi je revenais tout seul en France. Ah, vive Joyeuse, pardieu, foin de la maison de Valois. Ce n'est pas elle, ma foi, qui peut prendre pour sa devise hilaritaire. Monseigneur, oh, monseigneur, murmura du bouchage, suffoqué de douleur en voyant que cette hilarité du prince cachait une sombre et douloureuse jalousie. Ah, non, sur mon âme, je dis vrai, n'est-ce pas, Aurilly? Mais revenons en France, pareil à François Ier après la bataille de Pavie. Tout est perdu, plus l'honneur. Ah, 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 j'ai retrouvé la devise de la maison de France, moi. Ah, ah. Un morne silence accueillit ces rires déchirants comme s'ils eussent été des sanglots. Monseigneur, interrompit Henri, racontez-moi comment le dieu tutélaire de la France a sauvé votre Altesse.
Cher comte, c'est bien simple. Le dieu tutélaire de la France était occupé à autre chose de plus important sans doute en ce moment, de sorte que je me suis sauvé tout seul.
Comment cela, monseigneur?
À toutes jambes.
Pas un sourire n'accueillit cette plaisanterie, que le duc eût certes puni de mort si elle eût été faite par un autre que lui.
Oui, oui, c'est bien le mot. Comme nous courions, continua-t-il, n'est-ce pas, mon brave Aurilly?
Chacun, dit Henri, connaît la froide bravoure et le génie militaire de votre Altesse. Nous la supplions donc de ne pas nous déchirer le cœur en se donnant des torts qu'elle n'a pas. Le meilleur général n'est pas invincible, et Hannibal lui-même a été vaincu à Zama.
Oui, reprit le duc, mais Hannibal avait gagné les batailles de la Trébie, de Trasimène et de Cannes, tandis que moi, je n'ai gagné que celle de Cateau-Cambrésis. Ce n'est point assez, en vérité, pour soutenir la comparaison.
Mais monseigneur plaisante lorsqu'il dit qu'il a fui.
Non, pardieu, je ne plaisante pas. D'ailleurs, trouves-tu qu'il y a là de quoi plaisanter du bouchage?
Pouvait-on faire autrement, monsieur le comte, dit Aurilly, croyant qu'il était besoin qu'il vint en aide à son maître.
« Tais-toi, Aurilly, dit le duc, demande à l'ombre de Saint-Aignan si l'on pouvait ne pas fuir. »
Aurilly baissa la tête.
« Ah, vous ne savez pas l'histoire de Saint-Aignan, vous autres, c'est vrai. Je vais vous la conter en trois grimaces. »
À cette plaisanterie, qui, dans la circonstance, avait quelque chose d'odieux, les officiers froncèrent le sourcil, sans s'inquiéter s'il déplaisait ou non à leur maître.
« Imaginez-vous donc, messieurs, dit le prince, sans paraître avoir le moins du monde remarqué ce signe de désapprobation, imaginez-vous qu'au moment où la bataille se déclarait perdue, il réunit 500 chevaux, et au lieu de s'en aller, comme tout le monde, il vint à moi et me dit « Il faut donner, monseigneur. »«
Comment donner ? Lui répondis-je. « Vous êtes fou, Saint-Aignan, ils sont 100 contre 1. »
« Fussent-ils 1000, répliqua-t-il avec une affreuse grimace, je donnerai.
»« Donnez, mon cher, donnez, répondit-il, moi, je ne donne pas, au contraire. »«
Vous me donnerez cependant votre cheval, qui ne peut plus marcher, et vous prendrez le mien, qui est frais. Comme je ne veux pas fuir, tout cheval m'est bon à moi. »
Et en effet, il prit mon cheval blanc et me donna son cheval noir en me disant « Prince, voilà un coureur qui fera 20 lieues en 4 heures, si vous le voulez. » Puis, se retournant vers ses hommes, « Allons, messieurs, dit-il, suivez-moi en avant ceux qui ne veulent pas tourner le dos. » Et il piqua vers l'ennemi, avec une seconde grimace plus affreuse que la première. Il croyait trouver des hommes, il trouva de l'eau. « J'avais prévu la chose, moi. Saint-Aignan et ses paladins y sont restés. S'il m'eût écouté, au lieu de faire cette vaillantise inutile, nous l'aurions à cette table, et il ne ferait pas à cette heure une troisième grimace, plus laide probablement encore que les deux premières. »
Un frisson d'horreur parcourut le cercle des assistants.
« Ce misérable n'a pas de cœur, pensa Henri. Oh, pourquoi son malheur, sa honte et surtout sa naissance le protège-t-il contre l'appel qu'on aurait tant de bonheur à lui adresser.
« Messieurs, dit à voix basse Aurilly, qui sentit le terrible effet produit au milieu de cet auditoire de gens de cœur par les paroles du prince, vous voyez comme monseigneur est affecté, et ne faites donc point attention à ses paroles. Depuis le malheur qui lui est arrivé, je crois qu'il y a vraiment des instants de délire. »
« Et voilà, dit le prince, en vidant son verre, comment Saint-Aignan est mort et comment je vis. » Au reste, en mourant, il m'a rendu un dernier service. Il a fait croire, comme il montait mon cheval, que c'était moi qui étais mort, de sorte que ce bruit s'est répandu non seulement dans l'armée française, mais encore dans l'armée flamande, qui alors s'est ralenti à ma poursuite. Mais rassurez-vous, messieurs, nos bons flamands ne porteront pas la chose en paradis. Nous aurons une revanche, messieurs, et sanglante même. Et je me compose depuis hier, mentalement du moins, la plus formidable armée qui ait jamais existé.
En attendant, monseigneur, dit Henri, votre Altesse va prendre le commandement de mes hommes. Il ne m'appartient plus à moi, simple gentilhomme, de donner un seul ordre là où est un fils de France.
Soit, dit le prince, et je commence par ordonner à tout le monde de souper, et à vous particulièrement, monsieur du Bouchage, car vous n'avez pas même approché votre assiette.
Monseigneur, je n'ai pas faim. En ce cas, du bouchage, mon ami, retournez visiter les postes, annoncez au chef que je vis, mais priez-les de ne pas s'en réjouir trop hautement avant que nous ayons gagné une meilleure citadelle ou rejoint le corps d'armée de notre invincible joyeuse, car je vous avoue que je me soucie moins que jamais d'être pris maintenant que j'ai échappé au feu et à l'eau. Monseigneur, votre Altesse sera obéie rigoureusement, et nul ne saura, excepté ces messieurs, qu'elle nous fait l'honneur de demeurer parmi nous. « Et ces messieurs me garderont le secret ?» demanda le duc. Tout le monde s'inclina. « Allez à votre visite, comte. » Du bouchage sortit de la salle. Il n'avait fallu, comme on le voit, qu'un instant à ce vagabond, à ce fugitif, à ce vaincu, pour redevenir fier, insouciant et impérieux. Commander à 100 hommes ou à 100 000, c'est toujours commander. Le duc d'Anjou en eût agi de même avec Joyeuse. Les princes ne demandent jamais ce qu'ils croient mériter, mais ce qu'ils croient qu'on leur doit. Tandis que du bouchage exécutait l'ordre avec d'autant plus de ponctualité qu'il voulait paraître moins dépité d'obéir, François questionnait, et Aurilly, cette ombre du maître, laquelle suivait tous ses mouvements, questionnait aussi. Le duc trouvait étonnant qu'un homme du nom et du rang de Dubouchage eût consenti à prendre ainsi le commandement d'une poignée d'hommes et se fût chargé d'une expédition aussi périlleuse. C'était en effet le poste d'un simple enseigne et non celui du frère d'un grand amiral. Chez le prince, tout était soupçon, et tout soupçon avait besoin d'être éclairci. Il insista donc et apprit que le grand amiral, en mettant son frère à la tête de la reconnaissance, n'avait fait que céder à ses pressantes instances. Celui qui donnait ce renseignement au duc, et qui le donnait sans mauvaise intention aucune, était l'enseigne des gendarmes d'Aunis, lequel avait recueilli du bouchage et s'était vu enlever son commandement, comme du bouchage venait de se voir enlever le sien par le duc. Le prince avait cru apercevoir un léger sentiment d'irritabilité dans le cœur de l'enseigne contre du bouchage, voilà pourquoi il l'interrogeait particulièrement. « Mais, demanda le prince, quelle était donc l'intention du comte, qu'il sollicitait avec tant d'insistance un si pauvre commandement ?»« Rendre service à l'armée, d'abord, dit l'enseigne, et de ce sentiment je ne doute pas. »« D'abord, avez-vous dit. » « Quelle est l'ensuite, monsieur ?»« Ah, monseigneur, dit l'enseigne, je ne sais pas. »« Vous me trompez, ou vous vous trompez vous-même, monsieur. Vous savez. »« Monsieur, je ne puis donner, même à votre Altesse, que la raison de mon service. »« Vous le voyez, dit le prince, en se retournant vers les quelques officiers demeurés à table, « j'avais parfaitement raison de me tenir caché, messieurs, puisqu'il y a dans mon armée des secrets dont on m'exclut. » Ah, « Monseigneur, reprit l'enseigne, votre Altesse comprend bien mal ma discrétion. Il n'y a de secret qu'en ce qui concerne monsieur Dubouchage. Ne pourrait-il pas arriver, par exemple, que tout en servant l'intérêt général, monsieur Henri eût voulu rendre service à quelque parent ou à quelque ami en le faisant escorter ?»« Qui donc est ici, parent ou ami du comte? Qu'on le dise, voyons que je l'embrasse. » Monseigneur, dit Aurilly, en venant se mêler à la conversation avec cette respectueuse familiarité dont il avait pris l'habitude, Monseigneur, je viens de découvrir une partie du secret, et il n'y a rien qui puisse motiver la défiance de votre Altesse. Ce parent que monsieur du Bouchage voulait faire escorter, eh bien, fit le prince, achève, Aurilly. Eh bien, Monseigneur, c'est une parente. Ah, 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 s'écria le duc. « Que ne me disait-on la chose tout franchement, ce cher Henri? Eh mais c'est tout naturel! Allons, allons, fermons les yeux sur votre parente et n'en parlons plus. »« Votre Altesse fera d'autant mieux, dit Aurilly, que la chose est des plus mystérieuses. »« Comment cela ?»« Oui, la dame, comme la célèbre Bradamante, dont j'ai 20 fois chanté l'histoire à votre Altesse, la dame se cache sous des habits d'homme. » « Oh, monseigneur, dit l'enseigne, je vous en supplie, monsieur Henri m'a paru avoir de grand respect pour cette dame, et selon toute probabilité, en voudrait-il aux indiscrets ?»« Sans doute, sans doute, monsieur l'enseigne. Nous serons muets comme des sépulcres, soyez tranquille. Muets comme le pauvre Saint-Aignan. Seulement, si nous voyons la dame, nous tâcherons de ne pas lui faire des grimaces. Ah, Henri a une parente avec lui, comme cela, tout au milieu des gendarmes. Et où est-elle, Aurilly, cette parente? Là-haut. Comment là-haut? Dans cette maison-ci? Oui, monseigneur, mais chut, voici monsieur du bouchage. Chut, répéta le prince, en riant aux éclats.